Bonjour à tous, moi c'est Antoine. Récemment, je me suis rendu sur la place du théâtre à Arras afin de découvrir un enjeu qui pèse énormément dans notre société. Il s'agit de la journée mondiale des réfugiés qui s'est donc déroulée le 20 juin. J'ai pu rencontrer Nicolas, le chef de service du service réfugiés de l'association Audace. Il va nous parler de la journée mondiale des réfugiés et des enjeux qui tournent autour de ce sujet.
On est sur une journée mondiale des réfugiés, c'est que comme ça l'idée c'est un peu de partout dans le monde, le 20 juin, donc c'est tous les ans, c'est inexorable, c'est le 20 juin, on puisse fêter entre guillemets, hein, c'est un bien gros mot, mais mettre à l'honneur plutôt les réfugiés du monde entier, parce qu'il n'y a pas qu'en France où il y a des réfugiés, chaque pays a son lot de réfugiés, donc c'est un petit peu les mettre à l'honneur en cette journée spéciale.
Les mettre à l'honneur, c'est-à-dire ?
Montrer, déjà leur donner une visibilité, casser un petit peu les clichés qu'il pourrait y avoir sur ces personnes. Il y a une vraie méconnaissance sur les réfugiés, où on va mettre, je dirais, dans un même chapeau, migrants, sans-papiers, réfugiés, alors qu'un réfugié a été reconnu bénéficiaire de la protection internationale. Donc en fait, ils étaient en danger dans leur pays, et la France, pour nous, leur a accordé un statut pour la protection. Donc ils ont accès aux droits communs, ils sont installés en France, ils ont le droit de travailler. Donc voilà, c'est vraiment des personnes de droit commun, ils sont comme vous et nous, ils viennent d'un autre pays, mais ils sont entièrement intégrés en France.
Comme s'ils avaient le statut de français, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Alors,
voilà, quand on parle d'un statut de français, on va parler d'une nationalité, donc eux n'ont pas la nationalité française, mais ont tous les droits ouverts, je vous dis, vraiment, le droit de travailler, les enfants vont à l'école, les parents cotisent, les parents payent leurs impôts, donc voilà, ils sont vraiment statutaires, donc ils ne sont pas français, mais ils sont en toute égalité sur le territoire français.
Les réfugiés sont malheureusement vulnérables dans leur pays, donc que pensez-vous pouvoir leur apporter en organisant cette journée mondiale des réfugiés ?
Alors là, on parle d'une journée vraiment pour les mettre à l'honneur. Ce qu'on doit leur apporter, c'est toute l'année, je dirais, dans leur vie. Le premier, quand ils quittent leur pays, c'est pour la sécurité. Ils sont en insécurité, donc souvent, on parle... Selon les médias, il y a des pays qui vont plus faire parler que d'autres. C'est vrai que depuis 3 ans maintenant, on entend beaucoup les Ukrainiens. Donc c'est vrai que c'était une population qui n'était pas en danger avant le début de la guerre. Donc ils sont arrivés depuis 2022, depuis le début du conflit. Les Ukrainiens ont un statut de réfugié, s'ils le demandent, parce qu'il n'est pas donné à tout le monde, il n'est pas accordé à tout le monde, il faut le savoir. Il faut aussi prouver, de par son histoire, qu'on est en danger dans son pays. Donc c'est assez large, ça peut être pour des opinions politiques. À un moment, il y a eu aussi les Syriens, parce que par un moment, quand on était contre le régime en place, il y avait un danger de mort. Ça peut être pour son orientation sexuelle. Il y a encore beaucoup de pays où l'homosexualité est condamnée par la peine de mort. Donc voilà, quand on arrive à prouver que de par son histoire, on est en danger de mort, à chaque fois on parle vraiment de notion de mort, bah, la France peut accorder justement le statut pour dire on vous protège. Donc effectivement, on est vraiment sur le sentiment de sécurité en numéro 1.
Est-ce que vous vous considérez comme transparent avec les difficultés rencontrées dans leur vie et au sein de la France? C'est-à-dire, est-ce que leurs problèmes sont énoncés pour pouvoir capter l'attention des gens, pour qu'ils soient sensibilisés? Est-ce que vous utilisez à peu près ce procédé, pas de manière bien sûr abusive, mais dans le sens plutôt pour pouvoir vraiment sensibiliser les gens et qu'ils sachent un peu que ce qui se passe dans le monde à part en France, et là où il y a vraiment des situations très critiques dans d'autres pays?
Alors, nous, l'idée, vraiment, c'est pas de faire du misérabilisme. Voilà, on veut pas montrer que juste se dire, bah, c'est des petits malheureux, ce serait trop réducteur. Et les mieux placés pour en parler, ce sont les personnes qui sont concernées. Donc, effectivement, leur donner la parole, c'est eux qui pourront vraiment raconter leur histoire. C'est très difficile, il y a beaucoup de choses cachées. Même nous-mêmes, on sait pas toute l'histoire. Il y a des choses qu'on préfère oublier, sciemment ou inconsciemment. À un moment, de toute façon, c'est un mécanisme de défense. À un moment, quand on a vécu une torture, et ben, à un moment, ça peut être enfoui au plus profond de nous-mêmes et on essaye de l'oublier de ce côté-là. Donc effectivement, nous, le fait de les mettre en avant aujourd'hui, c'est montrer que bah, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est une personne lambda, c'est un tout à chacun. Il a une histoire, il a des enfants, il avait une vie avant et c'est ça qui est le plus difficile. Nous, notre travail dans l'accompagnement, parce que nous on va parler d'accompagnement, hein, les personnes, c'est les rendre autonomes. Et pour les rendre autonomes, donc déjà c'est expliquer l'administration française, on va dire, hein, premièrement, l'apprentissage de la langue. Donc, nous, on ne le fait pas, on fonctionne avec beaucoup de partenaires dont c'est le métier. Donc l'apprentissage de la langue française, c'est le premier point vraiment pour réussir à s'insérer ou s'intégrer en France. Ça passe par là. Mais l'idée vraiment, important, c'est de montrer leurs compétences. Après, on entend parfois, c'est plus facile dans les métiers en tension, mais tous les gens qui viennent, on peut avoir des profils de médecins, des profils de commerçants, tout le monde ne vient pas pour faire. Alors après, travailler dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans le bâtiment, on entend parler beaucoup des métiers en tension. Nous, ça, c'est une réalité, par contre, qu'on doit dire aux personnes qu'on accompagne. Dire qu'effectivement, vous aviez un statut avant, que ce soit au niveau de la qualification. À un moment, c'est compliqué. On était médecin dans son pays. Bah, effectivement, pour avoir une reconnaissance de diplôme, ça va être compliqué d'être médecin en France, où il faut repasser les diplômes. Mais on ne peut pas dire, je monte mon diplôme de médecin que j'avais en Afghanistan, je vais être médecin en France. Donc ça, nous, c'est tout notre travail pour leur dire que, bah, effectivement, c'est un nouveau départ. Et parfois, ce nouveau départ recommence par une nouvelle vie, un nouveau métier, une nouvelle formation. Enfin, les codes de la sécurité, même dans le bâtiment, n'est pas identique. Les matériaux de construction ne sont pas les mêmes. Donc même si moi, j'étais expert dans mon métier, je vais devoir me reformer pour avoir un diplôme qui soit appliqué, qui soit reconnu en France.
Pourquoi cet événement se passe à Arras ?
Alors, tout à chacun peut l'organiser. Hein. Nous, c'est vraiment parce qu'on est le service réfugié. Donc nous, effectivement, depuis une petite dizaine d'années, on accompagne ce public. Cet événement se passe dans notre grande ville. Après, c'est une sensibilité. Est-ce qu'il y a des associations ? Est-ce que la mairie ? Est-ce que les collectivités sont sensibles à ce sujet ? On est plus au niveau des villes parce qu'effectivement, ce public peut être invisible. Être réfugié, c'est un statut. Donc effectivement, c'est pas marqué sur la tête de la personne qu'elle est réfugiée. Donc on va faire un amalgame. Bah, je peux être réfugié, je peux être français de couleur, je peux être migrant, je peux être sans papier. C'est pas marqué sur notre front. Donc effectivement, même aujourd'hui, on ne demande pas les papiers pour les gens. On fête l'interculturalité. Dans la globalité, nous, notre idée, c'est ça. On fait de la vente de pâtisserie, où ce sont les gens qui ont préparé eux-mêmes. On fait une expo photo. Voilà, on prend les gens en photo qui ont accepté, avec un cachet artistique. On n'a pas demandé aux personnes quel était leur statut. On leur demande pas de nous raconter leur histoire. C'est réussir à mettre la lumière un petit peu sur ce public qui est, je vous dis, invisible par choix ou par contrainte.
Comment faites-vous pour vous adapter aux différents profils, pour les mettre en confiance ou encore pour répondre à leurs besoins ?
Alors la confiance, de toute façon, ça se gagne, ça se décrète pas. Donc effectivement, nous, la première idée, c'est que ils nous donnent ce qu'ils ont envie de nous donner. Comme je disais tout à l'heure, il y a des secrets enfouis parce que, à un moment, on se protège pour ne pas revivre ce qu'on a vécu. Donc les gens nous donnent ce qu'ils ont envie de nous donner. La confiance, elle va venir par l'écoute, premièrement, par le non-jugement. On parlait tout à l'heure de croyance. Les gens viennent d'une culture où la croyance peut être différente de nous, notre croyance française occidentale. On ne juge pas. On ne va pas dire non, c'est pas comme ça. Ici, c'est comme ça. Non, on écoute. Après, on peut reprendre avec les personnes. Une fois que la confiance est là, on peut leur dire vous, même si ça se passe comme ça dans votre pays, je vais prendre l'exemple par exemple avec les enfants, on va les donner à sa voisine. La voisine va garder les enfants. Nous, souvent, ils sont surpris quand ils arrivent ici, qu'on dit que il faut un agrément. On garde les enfants. Quand on parle de nounou, c'est quelqu'un qui est reconnu comme en capacité de garder des enfants et qu'on ne lui donne pas à sa voisine qu'on connaît parce qu'on la croise tous les matins sur son palier, qu'on ne connaît pas plus. Donc là, on est vraiment sur des différences culturelles et cette confiance, quand elle est là, justement, on peut expliquer justement ce qui ne se fait, ce qui ne se fait pas. Je mets des guillemets à ça, mais quelles sont les habitudes qui vont être moins tolérées en France. Et après, de toute façon, il y a le cadre légal. À un moment, il y a ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. On franchit pas la limite quand on est dans l'illégal, quand la loi nous l'interdit, ça on met tout de suite la barrière. On leur dit que ça, attention, ça pénalement, ça peut être répréhensible. Le reste, après, c'est la marge de manœuvre qu'on a à l'intérieur, se dire non, c'est pas illégal de laisser son enfant à sa voisine, mais il y a des gens professionnels pour ça. Donc à un moment, notre but, c'est de leur donner par exemple une liste des assistantes maternelles qui assurent Arras, de les présenter, de les mettre en contact. Et voilà, c'est comme ça qu'on arrive à passer outre les différences, les surpasser.
Pourquoi cet engagement ? Pour ces personnes-là. Pourquoi avoir décidé de faire ça pour ces personnes ?
Alors, oui, l'engagement, il est personnel, c'est sûr. Après, de par mon parcours professionnel, je peux m'analyser aussi, mais dans tous les cas, c'est l'accompagnement des personnes vulnérables. Moi, de par mon parcours professionnel, j'ai travaillé avec des sans-domicile fixe, j'ai travaillé avec des malades alcoolodépendants. Donc voilà, il y a toujours cette volonté, justement, de pouvoir accompagner les personnes les plus en difficulté. Donc voilà, là, on se trouve avec un public qui a aussi des difficultés qui sont différentes. On ne va pas parler de consommation d'alcool, de drogue. On est sur d'autres difficultés, mais donc voilà, après on pourra aller plus loin sur mon auto-analyse à moi, la psychanalyse personnelle, mais non, de toute façon ça, voilà, c'est que ça vient d'une éducation, l'ensemble des équipes, hein, parce que là vous m'interviewez que moi aujourd'hui, mais voilà, tout le monde a des convictions, et quand on travaille, je vous dis, c'est pas une question du public, c'est quand on est travailleur social, entre guillemets, parce que moi je parlais des travailleurs sociaux, ceux qu'on connaît, qu'on soit dans leur handicap, on a toujours justement cette volonté d'accompagner et de venir en aide. Pareil, je mets des guillemets parce qu'il n'y a pas le complexe du sauveur, mais se dire, bah voilà, moi je me forme pour pouvoir apporter des réponses qui aideront les gens dans leur vie.
J'ai pu rencontrer Christophe, qui lui travaille pour l'association Audace depuis 20 ans. Il est d'abord passé par l'association Relais Jeunes Artois et travaille maintenant pour le centre provisoire de l'association d'hébergement, faisant partie donc du service réfugié de l'association Audace. Il accueille des personnes ayant obtenu l'asile, donc une protection internationale, ce qui leur a permis d'obtenir un statut. Il est éducateur spécialisé dans le parcours de vie et l'intégration des réfugiés en France.
Disons que ce genre de journée qu'on organise, c'est forcément le but premier, même si là on invite des centres de formation et donc des personnes migrantes ou réfugiées qui sont inscrites sur les centres de formation à venir participer à des activités. L'idée pour nous est là, surtout cette année, d'être ouvert comme ça sur le... Ben, d'être dans la rue, quoi, en fait, hein, d'être sur la place du théâtre. C'est aussi une manière aussi d'essayer de sensibiliser la population, les passants. Voilà, l'expo qui est là, elle sert aussi à ça. Et nous, on est là aussi pour ça, pour essayer justement de... Voilà, parce que bon, de toute façon, les préjugés viennent généralement de craintes. Et voilà, pour certaines personnes, ça peut être compliqué de dissiper ces craintes-là, mais il y a toujours moyen quand même de faire évoluer les mentalités. Et puis voilà, on est là... On est là avant tout pour ça, profiter de la journée mondiale des réfugiés, pour essayer aussi de sensibiliser les gens sur le fait que les personnes qu'on accompagne sont juste des personnes qui ne viennent pas forcément nous remplacer, quoi. C'est des gens qui fuient leur pays parce qu'elles y étaient en danger et voilà, et qu'on accueille pour essayer de reconstruire leur vie ailleurs. L'association Audace est en partie à Arras, donc forcément l'association Audace a des comptes à rendre aussi à la mairie. Et la mairie, pour le coup, là, nous aide aussi en nous mettant à disposition un peu de matériel et la place du théâtre pour qu'on puisse justement organiser ce genre de journée. Donc voilà, c'est, je pense que d'une part, nous, on a besoin aussi de la municipalité pour pouvoir organiser des choses comme ça, pouvoir exister. Et puis peut-être que la mairie aussi peut avoir besoin de nous pour relayer aussi une parole. C'est-à-dire que je pense que pour la mairie, c'est l'année du vivre ensemble. Hein, pour la mairie d'Arras, c'est l'année du vivre ensemble. Donc je pense que voilà, ce genre de journée, c'est justement nous ce qu'on prône, hein, le vivre ensemble. Et je pense que là, pour le coup, on est raccord et que... C'est une forme, je dirais, de partenariat là, qui se crée, parce que là, il y a, je dirais, un intérêt commun à pouvoir véhiculer ces valeurs-là, quoi.
Pour les personnes qui ne le savent pas, la Journée mondiale des réfugiés se passe le 20 juin, mais vous faites ça toute l'année.
En fait, non, on fête la Journée mondiale des réfugiés tous les 20 juin. Enfin, celle-là, c'est la troisième édition de notre petit événement qu'on crée là depuis 3 ans. Mais nous, on travaille avec personnes réfugiées toutes les... Enfin voilà, c'est pas la journée mondiale toute l'année. Mais disons que nous, c'est notre quotidien à partir du moment où on en accompagne sur le plan de leur démarche, sur le plan social, sur le plan de un peu tout. Parce qu'en CPH, en centre provisoire d'hébergement, on fait un accompagnement dit global. C'est-à-dire qu'on accompagne les gens un peu sur tout, que ce soit leur intégration, l'apprentissage du français, la scolarité des enfants, la santé. Enfin voilà, c'est vraiment un peu tout ce qui peut... pour essayer de lever des freins à leur intégration. Et voilà, parce que les freins sont nombreux, qu'ils soient au niveau de l'environnement, parce que les gens arrivent dans une culture complètement différente, avec parfois des freins, et puis aussi qu'ils soient chez eux, le premier frein étant la barrière de la langue.
Joël, vous avez un appareil photo. Est-ce que vous pouvez me dire à quoi il vous sert dans votre engagement auprès des réfugiés ?
J'ai même 2 appareils photo. Là. En fait, je fais de la photo en amateur. Hein, là, mais c'est vrai que là, j'en avais parlé la dernière aussi, parce qu'il y a une expo là, qui est derrière nous, hein, une galerie de portraits que j'avais faite pour la journée de l'année dernière et qu'on a remis cette année parce qu'elle n'a pas évolué depuis l'année dernière, mais qui est pour nous aussi... assez symbolique en fait dans le message qu'elle veut renvoyer en fait. Et donc la photo en fait, moi comme tout moyen je dirais d'expression artistique et parle souvent plus que des mots, quoi. Voilà, en tout cas c'est ce que j'en pense, et donc j'essaye en toute humilité, hein, de d'essayer d'utiliser ce média-là aussi pour faire passer des messages. Après, il y a ça, et là, je fais des photos aujourd'hui aussi pour documenter. Vous avez vu qu'il y a aussi des panneaux autour des photos, des ateliers qu'on avait mis en place les années précédentes. Voilà, donc bah, l'année prochaine, il y aura les photos de cette année aussi.
Est-ce que le fait de... Ajouter à ça, donc du coup, parce que la photo, c'est, ça fait partie du monde culturel, c'est de l'art. Est-ce que ce mouvement de photo peut permettre aux réfugiés, par exemple, d'être mis en confiance, ou par exemple, d'être plus à l'aise, ou d'être plus convaincant pour la suite des messages qu'ils voudraient faire passer, sachant que dans vos photos, ils ne souhaitent pas montrer leur identité, qui sont quand même ici présents pour combattre et aussi montrer leur envie de se fondre dans la masse.
Bah, en fait, là, les gens que j'ai pris en photo, là, pour ce qui concerne les portraits, bah, qui ont été faits déjà dans une relation de confiance qui préexistait. Ça veut dire que c'est des gens que moi j'ai accompagnés ou que j'accompagne, avec qui j'ai construit une relation de confiance. Donc, dans tous les cas, ça, c'est nécessaire pour pouvoir prendre les gens en photo et pour pouvoir, il faut qu'ils me fassent confiance pour pouvoir rentrer dans cette démarche. Après, le fait qu'on ait fait en sorte qu'ils ne soient pas identifiables sur ces photos, c'est pour symboliser aussi le fait que ces personnes n'ont pas forcément envie, ici en France, d'être reconnues, parce que c'est des gens qui vivent aussi avec beaucoup de traumatismes, avec des peurs qui sont toujours présentes de ce qu'elles ont vécu dans leur pays. Donc voilà, c'était une manière de symboliser tout ça. Après, le rapport à la photo, le rapport à l'image selon les cultures est différent. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise de se faire prendre en photo dans certaines cultures, être pris en photo, peut avoir l'impression qu'on leur vole quelque chose, leur âme, ou voilà, je veux dire. Donc ça, c'est pour ça que je dis que ça ne peut s'inscrire que dans une relation aussi de confiance. Et voilà, il n'y a aucune photo ici qui a été faite sans l'accord des gens et à la sauvette. Voilà, la relation que j'ai avec les gens est importante pour pouvoir faire en sorte qu'ils soient en confiance. La démarche leur a été expliquée. Donc voilà, je pense que certains d'entre eux sont bien conscients aussi de l'impact que ça peut avoir. C'est un engagement politique, hein, au sens noble du terme. Et quand je dis ça, je ne veux pas défendre d'idées politiciennes, j'ai envie de dire. Mais voilà, un engagement politique au sens fort du terme, à savoir de quelle conception on a, de quel désir, quelle conception on a de la société dans laquelle on veut vivre. Voilà, moi, je suis travailleur social, donc forcément, je souhaite une société plus inclusive, plus tolérante, plus voilà, mais ça a beaucoup de niveaux. Mais ça, c'est lié. Je ferais pas ce travail, je pourrais pas faire ce travail si je n'avais pas ces valeurs-là. Donc moi, les valeurs que j'ai, c'est celles que j'essaye de mettre dans mon travail et aussi dans les photos que je fais. Voilà.
Et pour finir, j'ai pu rencontrer aussi Mariami, qui est une jeune réfugiée de Géorgie et qui est arrivée en France il y a 7 ans.
Ça fait pas longtemps que je sais cette association-là. Je ne savais pas beaucoup de choses, parce que jusque j'arrivais ici à Arras, j'étais à Paris, et après j'arrivais, j'étais accompagnée par l'association Audace, et c'est pourquoi j'ai pris le connaissance.
Comment ça s'est passé pour toi quand tu es arrivé en France? J'imagine que tu ne savais pas forcément bien parler le français, et je voulais savoir comment tu en es pris pour réussir à arriver à ce niveau-là et te sentir plus dans la masse avec les gens en France.
À partir du premier jour que j'arrivais ici en France, je ne savais pas du tout français, je ne savais pas du tout bonjour, merci, je parlais qu'en anglais. Et je pensais que malgré l'anglais, il est en langue internationale, c'était possible de tout faire ici, mais j'ai trompé. Et je réfléchis et après j'ai commencé à apprendre français. Pour les personnes réfugiées, par exemple, il est obligatoire de savoir français niveau 1 quand même, parce que toutes les personnes réfugiées, ils signent le contrat d'intégration de OFI. C'est l'Office français d'intégration et d'immigration qui gère leur intégration. Et c'était super important de signer sur ce contrat-là, parce qu'à partir de signature de ce contrat, j'ai commencé à l'intégrer dans le système français. J'ai commencé à apprendre la langue française, j'ai commencé à apprendre démarches administratives, j'ai commencé à apprendre plus beaucoup histoire, culture française. C'était super intéressant.
Tu m'as dit que le français, donc du coup, ça a été compliqué au départ, et à partir d'un moment, ça a été mieux. Et à partir de ce moment-là, est-ce que tu as cherché par exemple un travail ou par exemple à trouver une situation où tu pourrais trouver une stabilité en France? Et si oui, est-ce que ça a été compliqué ou sinon, qu'est-ce que en ce moment il se passe pour toi dans ta vie?
Trouver le travail pour des personnes réfugiées, c'est un peu compliqué. Premier, c'est, bah, en fait, c'est la langue française, c'est un clé qui va ouvrir de toutes les portes dans les, tous les réseaux, dans le, tous les domaines de travail, par exemple. Et premier, j'ai appris le français et après, je cherchais bien sur le travail. Malgré que j'étais journaliste dans la télévision Georgie, je voulais continuer le même métier, mais c'était impossible par rapport à un niveau français, en fait. Et c'est pourquoi, après, je travaillais comme formatrice intervenante dans le centre de formation. Et après, j'ai commencé la formation de travail social et j'ai déjà terminé. Je travaillais aussi dans le domaine social.
Est-ce que tu pourrais me dire, si ça ne te dérange pas, les raisons pour lesquelles du coup, tu es venu en France? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton pays?
Bah, 20% de Georgie il est occupé par les Russes. C'est l'histoire qui tourne, qui n'arrête pas jamais. À partir de 2008, c'était la même situation comme maintenant, par exemple, l'Ukraine, il était en guerre entre les Russes et les Georgiens. Et voilà, 20% il est parti, il est perdu. Et par rapport à vieux pro-européenne, ma vue pro-européenne, j'ai quitté mon pays en fait et j'ai pris cette décision-là pour devenir réfugiée.
À l'heure actuelle, est-ce que tu te sens intégrée ici en France ou tu sens qu'il y a encore quelques problèmes ou encore quelques difficultés?
Je trouve qu'entre le Géorgie et l'Europe, il y a pas de différence parce que le Géorgie il est candidate pour l'entrée dans l'Union européenne. Avec l'Ukraine, il déposait le dossier pour entrer dans l'Union européenne, mais malheureusement, la démarche il était arrêtée par rapport à un gouvernement géorgien. C'est un pays européen, je trouve qu'il y a la même culture, il y a la même humanité, égalité, mais les gens ils sont super bienveillants et j'ai aucune difficulté d'intégrer dans la société française.
Comment ça se passe avec les autres réfugiés qui viennent des autres pays quand vous vous retrouvez ensemble? J'imagine que comme vous avez déjà des situations qui sont similaires, ça doit être plus facile pour communiquer, mais j'imagine quand même à la fois par les cultures ou autres, les religions, ça doit pas forcément toujours être facile.
Personnellement, pour moi, c'est super intéressant parce qu'il y a interculturalité, il est toujours intéressant en fait d'apprendre beaucoup de choses, découvrir beaucoup de choses. C'est super intéressant d'avoir des contacts avec des gens, des étrangères dans certains pays par exemple. C'est super intéressant d'apprendre leur culture aussi, échanger sur ça et c'est bien quand même, j'aime bien.
Qu'est-ce qu'elle t'apporte à toi du coup cette journée?
Je pense que cette journée il est super intéressant. Et c'est super important et merci pour ça, l'association Audace, parce que c'est Audace qui a pris la décision de gérer ces journées-là. Et, c'est super intéressant pour des personnes réfugiées parce que c'est la première fois pour eux, c'est un respect. Deuxième, c'est pour les gens français, pour les gens européens, c'est une découverte de l'interculturalité, comme on a dit. Et après, c'est important aujourd'hui parce que dans le monde, il y a guerre et c'est un soutien pour les autres.
La journée mondiale du réfugié s'est donc déroulée le 20 juin. C'était à Arras, sur la place du théâtre. Merci à l'association Audace. Je voudrais remercier Christophe, Nicolas et Marie-Amie pour leur témoignage. Je vous remercie aussi pour votre écoute. C'était Antoine Valerio. À très bientôt.